France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans Prise de conscience de la condition d'Américain, James Baldwin écrivait : L'Europe possède ce que nous n'avons pas encore, un sens du mystérieux et des limites inexorables de la vie, bref, un sens de la tragédie. Quant à nous, nous avons ce qui lui manque le plus, une conscience neuve des possibilités offertes par l'existence. Dans cette entreprise destinée à combiner la vision du vieux monde et celle du nouveau, c'est l'écrivain et non l'homme d'État qui joue le plus grand rôle. Bien que nous n'en soyons pas encore entièrement persuadés, la vie intérieure est une vie réelle et les rêves intangibles de l'homme ont un effet tangible sur le monde. En 1987, pour une série de 5 entretiens, Jean Dève rencontrait James Baldwin qui, quelques mois plus tard, devait mourir à Saint-Paul-de-Vence où il s'était installé au début des années 70. On retrouve ici l'écrivain noir américain dont la voix se mêle au chant des cigales de Provence pour les deuxième et troisième de ses entretiens. Je m'appelle James Baldwin, deuxième et troisième temps d'une série de 5 entretiens avec l'écrivain américain pour les chemins de la connaissance proposé par Jean Dève en 1987.
À 17 ans, vous quittez la famille.
Mmh.
Donc vous quittez aussi Harlem.
Oui, j'ai quitté Harlem. J'ai commencé à travailler pour l'armée américaine, New Jersey. J'étais là pendant 2 ans, presque. Jusqu'à la mort de mon père. J'ai rentré à New York. Son dernier enfant est né le jour qu'il était mort. Et donc c'était mal de père. Et là, il a fallu que je sois sérieux sur le métier. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas travailler pour l'armée américaine, c'était épouvantable, ni pour le PTT. Ça ne marchait pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, il a fallu que j'essaie de devenir écrivain. C'était la folie. Enfin, à ce moment-là, il y avait... Mais je me suis rendu compte que c'était le seul espoir. Je ne pouvais pas faire autrement. Et j'ai commencé. Et j'ai travaillé comme garçon de restaurant. Parce qu'on mangeait le jour qu'on était... le jour qu'on est pris pour travailler, tu mangeais. Et j'ai fait ce métier plutôt jusque j'avais 24 ans, quand j'ai descendu ici, à Paris. Et j'ai travaillé tout le temps, mais évidemment, je n'étais pas en train de gagner de l'argent avec... My name is James Baldwin.
James Baldwin a joué un rôle fondamental dans l'émancipation des Noirs d'Amérique, problème qui non seulement traverse l'œuvre tout entière, mais en particulier Personne ne sait mon nom, où il analyse les relations entre Blancs et Noirs, le rôle des Noirs en Amérique et en Europe, la question de l'identité sexuelle.
Mmh.
revenir un peu en arrière.
D'accord.
Parce que je pense que votre père, c'est très important dans votre vie.
Ah oui.
Et bon, qui est votre père ?
Ah, pour dire la vérité, mon vrai père, je l'ai jamais vu, je connais pas. Le père Baldwin qui me donnait son nom était mon père d'après moi. Et il faut dire que au fait, la vie étant comme il est, c'était mon père. La question d'être père et fils n'est pas tout à fait biologique. Il m'a formé. Il m'a protégé. On se bagarrait. On était tous les deux très semblables. Il était très têtu, moi aussi. Et j'étais le fils aîné, et donc la lutte était d'abord entre lui et moi. Mais il m'a beaucoup appris. Il était très fier. Personne ne savait son âge, parce qu'il était le fils d'un esclave. Donc il était beaucoup plus âgé que ma mère, beaucoup trop âgé peut-être pour avoir 9 enfants dans le gâteau. Il sortait d'un monde que nous, les gosses, ne pouvions pas comprendre tout. Il ne pouvait pas traduire non plus. Et c'était très triste, c'était plus que ça. Mais il me donnait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Une certaine... Je ne voulais pas qu'il peut avoir honte de moi. Et surtout, ni les gosses non plus. Parce que j'étais censé être une espèce de modèle pour mes frères, mes soeurs. Et j'ai battu avec mon père. Avec un bagarre entre nous si fort que ça m'a sauvé plus tard.
De quoi ?
De la peur. Personne n'a jamais effrayé. Mon père m'a effrayé. Totalement. Personne n'a jamais effrayé. Par la suite, c'était plus possible.
Il y avait quoi ? De la colère ? De la haine ? Des cris ?
Pas la haine, mais la colère. Et l'haine contre les Blancs, oui. Oui, oui. Ça m'a fait peur aussi.
Une haine qui disait quoi, au fond, à l'égard des Blancs?
Ils étaient hypocrites. Ils n'étaient pas chrétiens. Et la preuve, c'était le sort des Noirs. D'après lui, les chrétiens n'avaient pas le droit de traiter n'importe qui comme les Blancs traitaient les Noirs. Et c'est vrai. Et j'ai pris ça, ça m'a simplifié la vie plus tard parce que ça m'a sauvé de beaucoup de choses. Ça m'a sauvé aussi quand même de la haine. Parce que je me suis rendu compte que cette haine en lui était une des choses qui le tuait. Et que la haine peut faire que ça.
Une fois en Europe, l'écrivain américain se trouve d'abord libéré de la nécessité de se faire pardonner son état. Ce n'est que lorsqu'il est délivré de l'habitude de courber les chines et de montrer qu'il est tout aussi honorable qu'un autre, qu'il se rend compte à quel point cette habitude a pu le diminuer. En Europe, il n'a pas besoin de feindre d'être ce qu'il n'est pas, car l'artiste n'est pas victime de la même suspicion qu'aux États-Unis. Quoique les Européens pensent en réalité des artistes, ils en ont maintenant fait mourir suffisamment pour savoir qu'ils sont aussi réels et aussi tenaces que la pluie, la neige, les impôts et les hommes d'affaires.
«
Il nous faut cependant considérer un paradoxe assez étrange. Bien que la société américaine soit plus mobile que la société européenne, il est plus facile d'échapper à la contrainte sociale en Europe qu'aux États-Unis. Ceci présente quelques rapports, à mon avis, avec le problème de la position de l'individu dans la vie américaine. Là où tout le monde a une position, il est également très possible, après tout, que personne n'en ait une. Il semble inévitable, en tout cas, qu'un homme puisse ressentir de la gêne devant la nature de sa position sociale. Mais il y a longtemps que les Européens vivent avec cette notion de rang social. Un homme peut éprouver autant de fierté à être un bon garçon de café qu'à être un bon acteur, et ni dans un cas ni dans l'autre, il ne sent peser sur lui la moindre menace. Cela signifie que l'acteur et le garçon de café peuvent entretenir en Europe des relations plus libres et plus amicales que celles qu'ils pourraient avoir aux États-Unis. Le garçon de café n'éprouve aucun ressentiment obscur à la pensée que l'acteur a réussi, et l'acteur n'est pas tourmenté par la crainte de se retrouver demain garçon de café. Personne ne sait mon nom.
Dans un de vos livres, Personne ne sait mon nom, vous traitez les Noirs comme appartenant à un peuple bon enfant, très naïf.
Moi ?
Oui.
Comment ? Naïf ?
Naïf.
Mais j'ai jamais pensé des Noirs comme ça. Ils sont très directs, peut-être. Mais naïf ? Non.
Bon enfant ?
Non. Mais dans quel livre ?
Personne ne sait mon nom.
Nobody knows my name. C'était... Je t'avais dit la traduction. C'était pas du tout mon idée. D'ailleurs, c'est pas vrai. Il y a un masque, bien sûr. Il y a deux choses. Il y a un masque que un noir peut porter exprès. Mais le masque est une chose pour corroborer l'idée que les blancs font des noirs. Très tôt, si on veut vivre, on se rend compte que la plupart des blancs ne peuvent pas te voir. Ils voient une image, mais ils ne voient pas l'être humain derrière la peau. Bon. C'est pas mon problème, c'est le vôtre. Et quand j'étais plus jeune, j'utilisais ce masque contre vous. Je savais très bien que tu me voyais pas. Donc, j'étais exactement ce que tu pensais que j'étais. Je m'en foutais d'ailleurs. C'est pas la faute noire, c'est votre faute. C'est vous qui avez une image tranquillisante, je crois, qui n'a rien à voir avec la vérité. Rien de tout. Je suis plus sauvage que vous, en même temps que je suis plus gentil que vous. Je suis toutes les choses dont vous n'êtes pas. Et ça, c'est pas possible, finalement. Finalement, n'importe qui, finalement, n'importe quelle couleur, etc., on décide. On décide qui on est.
Et comment elle a lieu, l'histoire de l'émancipation ? Comment vous pourriez la raconter ?
Quelle émancipation ?
Par exemple, l'intégration scolaire.
Ça, c'est très complexe. On ne peut pas discuter ça sans encore discuter l'idée de démocratie dans le monde occidental. La crise, si on peut exprimer ça comme ça, dans le monde de l'éducation, c'était très complexe parce que, au fur et à mesure qu'on commence à étudier vraiment l'histoire des Noirs dans l'Amérique, dans mon pays, on est forcé de se rendre compte que on se trouve en face, pas de l'histoire noire, mais de l'histoire blanche. Et c'est ça, au fond, qui a tout gêné. Et c'est pas encore plus complexe que ça. On peut rester ici toute l'après-midi. La question des écoles, par exemple, c'est lié avec la question des villes. Si dans la ville de New York, par exemple, il y a Harlem pour une bonne raison, une raison économique. Et bien sûr, il y a des écoles dans Harlem, dans un ghetto. Et on ne peut pas ranger les choses, transporter les enfants dans une autre école pour 4 ou 5 heures, parce que ça aggrave les choses, il va le contraste. La seule façon vraiment de ranger les choses, c'est de changer la ville. Mais de changer la ville, c'est une chose personnelle, elle m'a envie de faire, parce que la ville se construit exactement pour séparer les Noirs des Blancs. Ah ben, ça c'est un peu trop simple, mais c'est ça. Donc la crise de l'éducation américaine, c'est pas exactement une crise chez les Noirs, mais aussi une crise chez les Blancs. La vérité sur notre histoire, c'est n'a jamais été vraiment racontée. Et tout le monde est perdant là-dedans. C'est comment ce que je veux dire. Et les résultats risquent d'être graves. Parce que c'est très grave d'agir sur la base d'une histoire qui est fausse. Ça veut dire que vous êtes handicapé pour la réalité. Devant la réalité.
Loved him, though he was cocky. He took her down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Eddie, 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 Eddie,
Eddie, Eddie. Dans la nécessité où je me trouvais de découvrir dans quelles conditions mon expérience pourrait se rattacher à celle des autres, noir ou blanc, écrivain ou non, je m'aperçus à mon grand étonnement que j'étais aussi américain que n'importe quel GI du Texas. Et je me rendis compte que ce sentiment était partagé par tous les écrivains américains que je connaissais à Paris. Comme moi, ils s'étaient coupés de leurs origines. Que l'origine des blancs américains fût européenne et la mienne africaine, cela se révéla d'une importance bien médiocre. En Europe, ils étaient aussi déracinés que moi. J'étais fils d'esclaves. Ils étaient fils d'hommes libres. Mais à partir du moment où nous nous retrouvions sur le sol de l'Europe, cela importait moins que le fait que nous cherchions, eux comme moi, notre identité particulière. Quand nous l'avions trouvée, tout se passait comme si nous nous disions qu'il ne fallait plus nous accrocher à la honte et à la rancœur qui nous avait divisés si longtemps. Personne ne sait mon nom.
Oh!
Pourquoi vous avez choisi l'Europe à un moment donné?
Oh, j'ai pas choisi.
C'est pas un peu une forme de peur, ça?
Oh, c'était... Oh, la peur, si tu veux, mais... Peur de quoi?
Mais il y a eu, à mon avis, deux peurs. Tout à l'heure, tu as dit, je suis parti parce que je ne voulais pas... J'avais peur du mensonge ou je ne voulais pas mentir.
Voilà.
Et ensuite, vous avez quitté Harlem pour l'Europe.
Oui, parce que, d'une certaine manière, j'étais au bout de ma chance. C'était... C'est devenu grave, parce que... Je ne pouvais plus jouer de comédie. Et je ne voulais pas, d'ailleurs. Et pour devenir moi-même, devenir un homme, et pour devenir écrivain, il a fallu que je trouve un moyen d'écrire pour moi-même qui j'étais, au lieu de quoi. Et j'ai quitté New York pour l'Europe. Je ne pouvais pas aller en Afrique, il n'y avait pas en Afrique à ce moment-là. L'Europe, c'était la seule possibilité. J'ai pensé à Israël, mais j'ai pensé aussi que ça risquait d'être un peu trop compliqué, peut-être. De toute façon, j'ai descendu à Paris. Et j'avais beaucoup de chance. Je suis descendu ici avec $40, sans un mot de français, et je ne connaissais personne. Ben, je connaissais beaucoup de monde, mais je ne connaissais personne. Mais pour moi, ça me sauvait la vie, finalement, parce que les Français, comme vous dites, sont très réservés. Et donc, personne ne s'en occupait de moi. C'est ça que je voulais, d'ailleurs. Je ne pouvais pas parler, donc je suis resté dans un silence pendant presque un an. Et dans ce silence, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais beaucoup de chance, parce que dans ce silence, j'ai commencé à comprendre le langage qui me formait, moi, et mon vrai passé, et moi-même. J'avais rien à prouver à personne. Le français était formidable pour moi parce qu'il me laissait tranquille. J'étais invisible. Ils s'en foutaient carrément de moi, c'est ça que je voulais. Et finalement, après un an, j'ai commencé finalement quand même de... J'ai commencé de sentir que j'étais plus ou moins sur mes pieds. Et j'ai commencé à parler le français un peu, j'ai commencé à écrire. Et je me suis rendu compte que quand même j'avais passé par... Quelque chose était derrière moi. Une espèce de lutte intérieure. Et là, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à de devenir Jimmy, moi-même. J'étais libéré de quelque chose. Et une fois libéré de cette espèce de angoisse, cette espèce de amertume, et un autre mot, une espèce de étonnement, parce que c'est difficile, les personnes, c'est difficile d'exprimer ça, mais au début, la noire ne peut pas comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter son sort? Et dès qu'on se rend compte que ce n'est pas à cause de vous, tu risques de tomber dans la haine et par la suite la folie.
Question, and I had to tell me, yeah. Yes, indeed it is. Is it true as stars above me? What kind of fool is you?
C'est Bessie Smith qui, par sa voix et par ses cadences, m'aida à retrouver mon propre langage d'enfant et à me rappeler les choses que j'avais entendues, vues et ressenties. Je les avais enfouies très loin au fond de moi. Je n'avais jamais écouté Bessie Smith en Amérique, de même que pendant des années, je n'avais pas voulu manger de melon d'eau. Mais en Europe, elle m'a aidé à me réconcilier avec le fait que je suis un nègre. Personne ne sait mon nom.
But if some woman looks at him, I'll tell her half in two. Oh, do my sweet, sweet daddy love me? Yes, indeed he do.
My name is James Baldwin.
James Baldwin nous donne l'image d'une société déchirée par la haine et par la peur. Un lyrisme visionnaire d'une violence rare, le plus souvent, brosse la dramatique condition noire face à la société blanche qui résiste à dissiper le cauchemar raciste, comme dans Chronique d'un pays natal. Terrible coïncidence entre la mort de votre père et les émeutes.
Ah oui.
À Harlem.
Oui, ça c'était quelque chose. Oui, voilà un autre. Voilà par exemple le race riot, les émeutes de 43. À la base, d'après moi j'étais à cause de ma famille, j'étais à Harlem. Tous les jours, j'habitais en Greenwich Village, mais j'étais toujours à Harlem. Et le GI noir, l'américain était c'était très dur dans l'armée américaine, c'était cette époque-là. évidemment, ils écrivaient à leur mère, leurs parents, les frères, les sœurs, les amants. Et tout le monde était au bout des nerfs. Si tu as un fils ou un amant ou un frère en Géorgie, au Mississippi, au Alabama, les années 40. C'était terrifiant. On était même soulagé dès que le gars était transporté en dehors des États-Unis, sur le champ de bataille. Ironiquement, on était soulagé parce qu'il était dans un autre monde. Mais le poids de tous ces lettres, dans la misère qui était Harlem à ce moment-là, est responsable directement pour les émeutes. Il a fallu que ça éclate. Et c'était le jour de funérailles de mon père. Et c'était bizarre. C'était comme si lui-même, en quittant le monde, avait fait tout ça. Il a toujours voulu tear this building down. Et là, on était avec lui dans cet enfer. Et ça m'a beaucoup frappé. Ça me faisait peur aussi. Oui. Parce que c'était ça le résultat, le seul résultat possible de la haine, c'était ça. Et ça, quoi faire avec? Il faut tout simplement trouver un moyen de remonter tout ça et de recommencer. Et en même temps, c'est inévitable, parce que un être humain, c'est un être humain. Et personne n'a jamais accepté, tranquillement, d'être esclave. Et, je répète, ça fait maintenant une crise pour le monde occidental. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était une crise personnelle. Trouver un moyen d'être plus clair que ça. Mais c'est pas facile.
Ça a beaucoup changé quand même depuis. C'est clarifié.
C'est clarifié si tu veux. Mais c'est pas beaucoup changé. Non.
Je suis né à Harlem il y a 31 ans. J'ai commencé à imaginer des intrigues de romans vers l'époque où j'ai appris à lire. L'histoire de mon enfance est une fantaisie morne et banale que nous pouvons mettre de côté après avoir simplement observé que je refuserais probablement de la revivre. En ce temps-là, ma mère cultivait une habitude exaspérante et mystérieuse. Elle faisait des enfants qu'au fur et à mesure je prenais en charge d'une main tandis que de l'autre, je tenais un livre. Ils en ont probablement souffert, bien qu'ils aient eu depuis la gentillesse d'affirmer le contraire. Et c'est ainsi que j'ai lu et relu maintes fois la case de l'oncle Tom et les deux villes. En fait, c'est ainsi que j'ai lu presque tous les livres qui me tombaient sous la main, à l'exception de la Bible. Probablement parce que c'était le seul qu'on me conseillait de lire. Chronique d'un pays natal.
Le monde change très, très, très lentement. Et les seules choses à faire, c'est de recommencer dans chaque génération. Ce n'est pas la peine de se plaindre, ni d'être amer, ni d'être romantique. Mais dès que l'esprit des gens ne change pas, il n'y a pas grand changement possible. Les villes sont encore pire maintenant que quand j'étais jeune. Encore plus dangereux.
Mais dangereux de quel danger?
Danger parce que la communauté noire était, on va dire, brisée. La relation entre père et fils n'existe plus, pratiquement. J'exagère un peu, parce que c'est pas si facile que ça, quand même, de détruire. Et je ne suis pas en train de dire que nous sommes en train d'être détruits. Mais le danger des drogues, le danger de pauvreté, qui n'est pas du tout comme la pauvreté autrefois, et une crise plus grave que ça, difficile à exprimer.
Danger de l'aisance aussi, par la drogue.
Oui. Enfin, ça c'est très complexe ça. Mais
l'aisance aussi existe pour la société noire aujourd'hui.
Évidemment, évidemment. Et ça, mais ça a toujours été vrai aussi. Mais à mon époque, il y avait une espèce de lien entre les gens aisés et les pauvres. Et ça c'est menacé maintenant, si ça existe. Parce que je répète, la nature de la pauvreté a changé. C'est tout à fait une autre chose maintenant. Et la drogue chez les aisés et les drogues chez les misérables sont la même chose, mais chez les misérables, c'est beaucoup plus dangereux parce que le type, 17 ans, 20 ans, risque d'abord sa vie et où il va claquer avec, où il va passer sa vie en tôle. Et ça, c'est très grave aussi.
Je suppose que tout écrivain a l'impression que le monde dans lequel il est né n'est rien d'autre qu'une conspiration contre l'épanouissement de son talent. Et cette attitude est sans aucun doute largement fondée. D'autre part, c'est seulement parce que le monde considère son talent avec une aussi redoutable indifférence que l'artiste est obligé, lui, de le magnifier. Tout écrivain, même s'il se penche sur un passé aussi court que celui dont je suis contraint de faire ici l'inventaire, tout écrivain s'aperçoit que les choses qui l'ont blessé et celles qui l'ont aidé sont indissociables. Il ne pouvait recevoir une certaine aide que dans la mesure où il recevait une certaine blessure. Et cette aide lui permettait seulement de passer d'une énigme à la suivante. On est tenté de dire d'un désastre au suivant. Lorsqu'on commence à chercher les influences, on les trouve à la douzaine. Je n'ai pas beaucoup pensé à celles que j'ai pu subir, pas assez en tout cas. Je me risquerais à citer la Bible du roi Jacques, la rhétorique de la Storffrondchurch, la part constante d'ironie, de violence et d'euphémisme que l'on trouve dans l'expression des Noirs et aussi un peu de cet amour qu'avait Dickens pour le panache. Il y a sans doute un peu de tout cela en moi aujourd'hui. Chronique d'un pays natal.
Beaucoup plus en lisant Chronique d'un pays natal, c'est que vous insistez beaucoup sur votre exil volontaire à Paris.
Oui.
C'est très étrange, ça, comme articulation.
Comment
vous êtes censé parler d'Harlem,
oui.
Mais vous, sans cesse, vous passez par Paris.
Ah oui, je vois. D'une certaine manière, tu dis que... Enfin, moi, je dirais que j'étais réconcilié avec Harlem. Par moyen de Paris.
Oui.
Oui, c'est vrai, ça. Ah oui, parce que je l'ai libéré de mon pays d'abord. Dès qu'on se rend compte qu'il y a les autres pays du monde, dans le monde, vraiment les autres pays, et on se trouve dans un autre pays, moi j'ai pu vivre mon Amérique de loin, plus clairement. D'abord parce que je n'étais pas dedans, je n'étais plus menacé directement. Et je pouvais voir la façon dont le nouveau monde était né. Ça me faisait une espèce de clé pour mon pays. Puisque tout le monde sortait d'ici, enfin de, plus ou moins de l'Europe. Et pas très, il n'y a pas très longtemps non plus. Et le changement entre un Anglais en Angleterre ou un Pôle à Pologne et le même type à Chicago, à New York, était énorme. Et on commençait à chercher la raison pourquoi. Parce qu'ici, vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas blanc. Vous êtes français, vous êtes polonais, vous êtes tout. Là-bas, vous êtes tous blancs. Et le seul, il me semblait à un moment donné, après un très long moment, il me semblait que chez nous, sûrement, la seule chose sur laquelle vous étiez tous d'accord, c'était moi, mon sujet. Vous n'étiez jamais d'accord entre vous sur n'importe quelle autre chose. Vous êtes toujours en train de bagarrer chez moi et chez vous, sur tous les détails de la vie quotidienne, le prix du vin, chez nous, le Board of Education, toutes les institutions qui font la société. Mais dès qu'on parle des Noirs, vous tous devenez blancs. Assez longtemps pour me garder en place. Hein. Et ça, c'est très ironique, il me semble. Mais dès que j'ai commencé à me rendre compte de cela, j'étais libéré d'une autre chose. J'étais libéré de mythes, de... Comment dire-je ? J'étais libéré de mythes de que mon pays était le seul pays raciste du monde. Et... Puisque j'étais ici au début d'ici quand même l'époque de Suez, j'étais ici pendant les drames avec la Tunisie et surtout au début de la guerre entre la France et l'Algérie. Et là aussi j'ai beaucoup appris parce que vous les Français en parlant des Algériennes, à moi, tu m'as étonné parce que vous racontez sur le pauvre Algérien la même chose, dans le même langage, que les Blancs américains me toujours décrit tous les fautes, tous les vices, tous les limites, toutes les sauvageries qui étaient sur mon dos en Amérique, qui étaient sur le dos de l'Algérien ici en France. Et là, j'ai pigé quelque chose de non. En fait, j'ai pigé que le... cette doctrine de suprématie blanche qui est malade mais pas encore mort était pensée dire universelle. Et c'est pour ça, heureusement, une autre manière que la France m'a sauvé. J'ai resté ici jusqu'en 57, je suis rentré aux États-Unis. Je suis rentré aux États-Unis parce que j'avais beaucoup d'amis algériens dans le merde ici. Et il me semblait que la lutte qui commençait aux États-Unis, la lutte là-bas, en Algérie, ici en France, était la même. Et donc, dans ce cas-là, il me semblait mieux, plus simple, de rentrer chez moi, où je pouvais risquer d'être utile, au lieu de rester ici avec sympathie pour le pauvre Algérien et pour le pauvre Noir là-bas. Puisque moi j'étais né là-bas, je suis rentré là-bas. Et on peut dire que si je n'ai jamais descendu à Paris, je n'aurais jamais descendu dans le sud des États-Unis. C'est une espèce de répétition, peut-être.
Et ici, vous êtes dans le sud de la France.
Oui, je sais. Oui, je sais, la vie est pleine d'ironies.
Vous vous le reprochez parfois ?
De moi, il me reproche? Non. Non, non, non. Je suis pas si naïf que ça. Non, non, non. Il faut trouver un moyen de faire son travail. Et ça regarde... dans le cas présent, ça me regarde moi. Et je peux travailler ici. Je peux pas travailler à New York, mais ça, ça a toujours été vrai. Tu vois?
Non, je vois pas.
Non?
Non.
À New York, je pouvais pas, d'abord parce que j'étais très jeune, et parce que, tout simplement, tu peux pas... Pour écrire une page, il faut tourner le dos, tout. Tu peux pas, tu peux pas tourner le dos si tu es toujours menacé. Et dès que tu tournes le dos, tout ça reste en toi quand même. Et tu... À un moment donné, tu pouvais pas me libérer. Parce que j'étais trop coincé, j'étais vraiment là-dedans. Là. Il y avait vraiment le fric, il y avait vraiment de... Il y avait vraiment le danger, quoi. Il a fallu que je sorte de ce danger.
C'est seulement dans sa musique que le noir américain a été capable de nous conter son histoire. Cette musique que ses compatriotes sont capables d'admirer dans la mesure où, protégés par leur sentimentalité, ils ne la comprennent qu'en partie. Ils restent encore à la raconter autrement. Mais aucun Américain n'est prêt à l'entendre. Le silence qui résulte de cette incapacité d'expression nous oppresse, aujourd'hui encore, de sa dangereuse réverbération. Cette histoire nous est contée sous la contrainte avec des symboles, des signes, des hiéroglyphes. Elle transparaît dans la langue des Noirs, dans celle de la majorité blanche et dans leur cadre de référence respectif. L'influence que le Noir a exercée sur la psychologie américaine se trahit dans notre culture populaire et dans notre morale. Nous ne lui sommes aliénés que dans la mesure où nous le sommes à nous-mêmes. L'histoire du noir en Amérique est celle de l'Amérique, ou plus précisément, celle des Américains. Elle n'est pas très belle. L'histoire d'un peuple ne l'est jamais. Le noir d'Amérique, auquel on fait mornement allusion, comme à cette ombre qui gît par le travers de notre vie nationale, est en fait bien plus que cela. Il est toute une série d'ombres nées d'elles-mêmes, qui s'entrelacent et contre lesquelles nous luttons en vain. On peut dire qu'il n'existe pas vraiment, si ce n'est dans les ténèbres de notre esprit. C'est la raison pour laquelle son histoire et son ascension, ainsi que ses rapports avec les autres Américains, sont limités à la seule arène sociale. Il constitue un problème social et non un problème de personne ou d'humanité. Penser à lui, c'est penser statistique, taudis, viol, injustice, violence lointaine. C'est se trouver face à une interminable liste de pertes, de gains, d'escarmouches. C'est se sentir vertueux, violenté, impuissant, comme si son statut permanent parmi nous était quelque chose de semblable à une maladie, le cancer peut-être ou la tuberculose, qu'il faut à tout prix juguler même si on ne peut pas la guérir. Chronique d'un pays natal. Mm-hmm.
Vous êtes très violent, hein, toujours.
Violent. On me dit, pourquoi je suis violent? Tout le monde dit ça, hein, pourquoi?
Non, mais quand je vous ai lu, là, c'est très violent.
Mais peut-être mon sujet est violent. Tu vois ce que je veux dire? Violent, je sais. Je suis un passionné, sûrement. Il y a de quoi? Mais je ne crois pas que je suis violent de... Je n'ai pas envie de tuer qui je ne suis pas en train de détruire. Mais pour décrire la situation dans laquelle je me trouve violent. Et plein de dangers. Mais c'est pas moi seul, toi aussi. Nous sommes tous dans le même... on se rend compte ou on ne veut pas se rendre compte, mais... nous sommes dans le même monde, quand même. Tu vois ce que je veux dire?
Harlem, tout au moins dans son aspect physique, n'a pas pu changer à mon époque qu'à celle de mes parents. Maintenant, comme alors, les bâtiments sont vieux et ont désespérément besoin d'être restaurés. Les rues sont grouillantes et sales. Il y a trop d'êtres humains à l'immeuble carré. Les loyers sont de 10 à 58% plus élevés que partout ailleurs à New York. La nourriture coûteuse partout l'est encore plus ici, bien qu'elle soit de qualité inférieure. Depuis que la guerre est finie et l'argent rare, on lèche consciencieusement les vitrines de vêtements, mais on en achète rarement. Dans tout Harlem, on éprouve aujourd'hui le sentiment d'expectative angoissée avec lequel, dans mon enfance, nous attendions l'hiver. Il arrive et il sera dur. Il n'y a personne qui puisse y changer quoi que ce soit. Chronique d'un pays natal.
C'était « Je m'appelle James Baldwin », deuxième et troisième temps d'une série de 5 entretiens avec l'écrivain américain pour les chemins de la connaissance, proposé par Jean Dève. Mise en onde, Pamela Dousseau. Première diffusion, les 21 et 22 avril 1987, sur France Culture. À suivre. I've got that man made above me. He's funny that way.